Eh bien, bonjour à toutes et à tous. René Lavergne avec vous à l'antenne de Radio Campus, 106,6 FM, campuslille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Et comme chaque premier samedi du mois, vous avez rendez-vous avec Ondes de Chine, une émission consacrée entièrement à la Chine. Voilà, et bien sûr, comme nous sommes aussi tout début janvier, eh bien, j'en profite pour vous présenter tous mes meilleurs voeux. Et nous retrouvons Gauguin. Bonjour Gauguin.
Bonjour René.
Voilà, donc...
Bonne année à toi.
Donc tu es pour l'instant à Chengdu, c'est ça?
Voilà, je suis... Il y a trois jours, donc j'étais à Shanghai pour le 1er janvier, semi-marathon de Shanghai. Ouais.
Ah oui, tu peux peut-être nous faire un petit retour sur cette expérience. Donc tu as couru ce marathon.
Ah oui, donc c'est intéressant parce que Shanghai organisait chaque année 1er janvier, nouvel an, en semi-marathon dans le fameux Secure international de course de voiture, bien sûr. Alors, c'est intéressant, donc c'est ma première fois, j'ai participé et courir semi-marathon dans le stade. Voilà. Donc, je vais faire quatre tours pour semi-marathon et il me semble, j'ai vu Michael Schumacher qui était en première course dans cet endroit. Ouais. Mm. Donc c'est vraiment intéressant, c'est une expérience sans précédent, c'est très bien. En plus, 1er janvier à Shanghai, il fait très très beau et je n'ai pas fatigué, je n'étais pas fatigué, j'ai couru quatre tours malgré certaines routes, c'est un peu difficile parce que c'est les penches vraiment très très fortes là.
Bon, d'accord.
Finalement donc j'ai eu mon meilleur record par rapport l'année dernière avant. Alors donc j'ai eu 1h43 minutes voilà.
Bon, j'imagine qu'il y avait beaucoup de participants à cette course.
Ah oui, donc, à peu près 12 000 coureurs. Alors, à la fin, je suis classé 999. C'est marrant, c'est 3-9, je suis classé.
Ah, bravo, oui. Bon, écoute, c'est un beau succès. Et puis, donc... là, tu es revenu à Chengdu, donc je ne sais pas, le temps est très différent.
Oui.
Le temps est très différent à Chengdu, quand même.
Ah oui, Chengdu, c'est... Bon, donc Chengdu, c'est clair, ce n'est pas comme à Shanghai, il y a du soleil, merveilleux. Chengdu n'est pas très froid, 16 degrés, mais il n'y a pas de soleil.
Il n'y a pas de soleil. Bon, ben ici... À Lille, il fait froid aujourd'hui.
À Lille,
ouais,
à Lille.
Il fait dans les 0 degrés, tu vois, donc c'est quand même plus froid, ouais.
Oh, un peu Sibérie.
Un peu Sibérie, ouais. L'Est se rapproche. C'est l'hiver, hein, c'est comme
oui,
ça.
Oui, je suis
chez
en train
nous,
de. Ouais. Oui. D'accord, ok. Bah, Chengdu, c'est pas très froid, hein, Chengdu, parce que il me semble l'hiver jamais très froid. Et c'est toujours entre. 10, 15, 16 degrés en hiver, voilà. Mmh. Simplement, il n'y a pas soleil, mais voilà. Mais ça, c'est très bien. Oui.
Bon.
Mais beaucoup de monde sortir dans la rue.
D'accord. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas parler de Chengdu, on va parler de Chongqing, qui est aussi au Sichuan.
Ah, Chongqing, oui, c'est mon voisin. C'est,
voilà.
C'est mon voisin, oui,
donc, c'est... Ton grand voisin.
C'est une heure de TGV. Une heure de TGV.
Ouais. Donc, Chongqing, qui est quand même une ville de presque 40 millions d'habitants. Hein.
Ah oui, c'est la première, je crois que c'est la première ville métropole du monde.
Ouais, c'est incroyable. Donc là, on va en parler, on va pas y aller, hein, puisque en fait, j'ai fait un reportage à l'école supérieure d'art qui est à Tourcoing.
D'accord.
Et à Tourcoing, ils ont un partenariat avec une école d'art à Chongqing. Donc on va parler de ce partenariat, d'un autre aussi avec une autre ville de Chine, et puis d'artistes qui sont en résidence, qui interviennent comme professeurs, voilà. Donc aujourd'hui, on va passer cette heure à parler d'échanges culturels, notamment artistiques, arts plastiques, sur cette antenne.
Ah oui, c'est très bien, oui.
Voilà, donc j'ai prévu tout ça.
Oui, d'accord. À Chongqing, donc, c'est l'université des arts de Sichuan, c'est ça? C'est le nom de ça?
Ouais,
université
c'est,
des arts?
C'est un peu ça, ouais. C'est
de
un,
art,
c'est un peu ça.
Ou bien c'est art plastique du Sichuan, voilà. Mais c'est à Chongqing.
Ouais, c'est à Chongqing. Donc, c'est une école...
Dans le quartier s'appelle Shapimba. Dans le quartier s'appelle Shapimba.
Oui, voilà. Donc, c'est Sichuan Fine Art Institute.
Ah oui, d'accord.
C'est ça, le nom.
Bon, c'est là, donc... Oui, c'est connu, ça c'est très très connu. Oui. Moi je connais l'ancien, on dit citoyen ou le président de cette université. Oui.
Oui,
c'est un très grand
qui est un
peintre
artiste.
De Chine.
Voilà, voilà ouais. Ben, merci Gogong pour ton intervention. Donc on se retrouve peut-être le mois prochain si tu es disponible, ou alors quand tu rentreras bien sûr en France, tu seras... notre invité. Moi je
oui,
serai,
oui, sans problème.
Je serai en Chine cette année en avril, mai.
Avril, d'accord, ok. En printemps.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le bon moment pour voyager. Et justement, j'ai prévu d'aller visiter Chongqing, mais aussi Chengdu, et puis peut-être, on verra, mais...
Voilà, bienvenue,
le fleuve
bienvenue
bleu,
à la maison. Voilà.
Tu sais, on a
je
fait
t'accueille ici sans problème.
On a fait notre émission sur le fleuve bleu, ça m'a donné vraiment l'envie de naviguer
excellent.
Dessus. Donc, j'ai prévu cette année. Voilà. Donc,
d'accord, sinon, début février, c'est vraiment c'est le bon moment parce que c'est tombé dans le Nouvel An chinois.
Oui, donc le Nouvel An, c'est le 29 janvier hein,
c'est
cette
commencé,
année.
Voilà, commencé le 29 janvier, oui.
Voilà,
c'est
bon.
Le jour de mon fils, l'anniversaire.
Ah, d'accord. Mais écoute, on va fêter tout ça aujourd'hui.
D'accord,
hein,
okay.
Et jusqu'au 29 janvier.
On présente un petit peu comment ça se passe, Nouvel An chinois en Chine.
Voilà. Donc, je vais te laisser là. Je vais diffuser les reportages que j'ai
d'accord,
faits.
D'accord, okay.
Et
allez,
un petit
bon
peu de musique pour démarrer, voilà, avec
d'accord.
Maëlle
et bonne année encore une fois. Bonne année et meilleurs vœux, bonne santé. Hein.
Merci beaucoup.
Alors, je m'appelle Martial Schmielina, Verschave. Je suis directeur du site de l'École supérieure d'art Dunkerque-Tourcoing, donc le site de Tourcoing. Je m'occupe de l'international et aussi des études sur le site de Tourcoing.
Voilà, donc nous sommes aujourd'hui à l'ESA, l'École supérieure d'art, la partie de Tourcoing, puisque l'école est aussi dunkerquoise. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va présenter une exposition et surtout un projet.
Bienvenue René. Alors voilà, tu es ici dans la galerie des Ursulines, qui est une galerie qu'on a créée il y a 2 ans à l'ESA Tourcoing, qui est ouverte sur le public. C'est aussi cette année le 60e anniversaire des amitiés franco-chinoises et on a voulu vraiment marquer le moment avec notre premier partenaire chinois qui est TAFA, donc la Tianjin Academy of Fine Arts, avec qui on travaille depuis de très longues dates, hein, de très longtemps, puisque ça fait 23 ans qu'on travaille ensemble sur des projets bilatéraux. Et on a réussi cette année, avec l'aide de TAFA, à inviter 17 artistes à intervenir. Alors ces 17 artistes ont tous eu une histoire partagée avec l'ESA ou avec l'ERCEP, hein, puisque, comme tu le sais, avant l'ESA, il y avait l'École régionale supérieure d'expression plastique. Et certains de ces artistes qui sont présents travaillent à la Tianjin Academy of Fine Arts et ont été parfois des étudiants de l'ERCEP ou de l'ESA. Donc ça fait toujours plaisir de voir ce partenariat se concrétiser depuis autant d'années. Mais on ne travaille pas qu'avec avec TAFA, on a aussi un nouveau partenaire qui est SFAI, donc la Sichuan Fine Arts Institute, qui est située à Chongqing. Et nous venons de signer un partenariat pédagogique, académique, qui prépare les étudiants à la fois de Chine mais aussi de France à préparer un diplôme national d'art plastique, mais aussi une licence qu'on appelle en Chine un Bengke en art.
Voilà, donc un double diplôme, on peut dire ça, enfin, qui peut être validé en France et en Chine.
Un 2 plus 2, tout à fait. Donc 2 ans en France, puis 2 ans en Chine pour les Français, et inversement, 2 ans en Chine, plus 2 ans en France pour les Chinois. Donc là, nous allons lancer la première promotion l'année prochaine, nous espérons. Donc là, l'ESA va prendre contact avec des lycées qui ont une option chinoise. J'en ai listé à peu près une quinzaine en France, soit une option, on va dire, lourde, ou alors, comme au lycée Montebello, une option un peu plus légère. Mais nous espérons que des lycéens qui sont intéressés à la fois par la culture chinoise et à la fois par l'art viendront à l'ESA, puisque je pense que nous sommes la seule école d'art française à proposer actuellement un 2 plus 2 comme ça.
Bon, ben voilà, une bonne nouvelle, hein, et puis un appel à des candidats.
Bien sûr.
Donc, notre artiste aujourd'hui.
Oui, bonjour. Je m'appelle Zhang Haichao. Je viens ici pour représenter mon école SAFAI. Et pour préparer le 2 plus 2 programme en avance. Donc, moi, je suis déjà commencé à faire des petits enseignements ici pour apprendre comment ça fonctionne ici en France. Mais comme vous savez, le 2 plus 2, c'est un programme plutôt général. Mais précisément, il faut connaître les deux côtés de prof, connaître comment les différents systèmes fonctionnent et comment on peut faire un changement de différentes cultures pour mélanger ensemble. Pour moi, c'est du problème très précis à régler pour moi. Donc, moi, petit à petit, j'enseigne quelque chose, apprendre quelque chose pour avancer tous les détails du programme aussi. Et moi, je suis aussi, pour mon travail comme un artiste de nouveaux médias, et je bénéficier beaucoup de l'environnement de Tourcoing ici. Donc, c'est une très bonne expérience d'être 6 mois, de rester ici. C'est mon honneur.
Quelques mots sur votre école à Chongqing?
Oui, mon école, c'est la seule école de beaux-arts à sud-ouest de la Chine. Donc, on est plus de 70 années de l'histoire de cette école très vieux. Et maintenant, on a créé l'art expérimental, la direction, depuis 10 ans, c'est par rapport au l'art contemporain en France. Donc, on est en train d'essayer de faire du recherche sur le domaine d'art plus avancé comme contemporain, art et technologie et tout ça. Et maintenant, on est avancé un peu plus de faire la relation avec la France pour créer des liens plus profonds. Donc, je pense que dans le futur, on va avancer plus sur des arts contemporains et expérimentaux. Et
donc, l'art contemporain, on peut dire qu'il est varié, il y a beaucoup de possibilités pour les artistes de créer. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun pour l'art contemporain en Chine et qui vous semble aussi une caractéristique de quelque chose de commun aux artistes français, aux artistes contemporains, ou est-ce que maintenant tout est ouvert et passer de Chine en France, il n'y a pas trop d'écart culturel?
Oui, c'est une très bonne question. En Chine, on peut le parler séparément parce que, vous savez, en Chine, la culture traditionnelle est vraiment riche. Et nous, on a des écoles beaux-arts, ils ont environ 100 années ou plus, donc on garde des traditions vraiment riches, donc on a la partie traditionnelle. Et aussi, on est ouvert pour les nouveaux, comme l'art contemporain. Donc, normalement, dans les écoles de beaux-arts en Chine, on a en même temps, les départements plutôt traditionnels comme peinture à l'huile, sculpture et de design. Et aussi, on a le département de l'art contemporain. On dit l'art, plutôt l'art expérimental ou l'art intermédiaire, l'art transmédia et tout ça. Donc ça, c'est par rapport aux nouvelles parties de l'art contemporain par rapport et aussi par rapport aux nouvelles technologies, donc comment l'art technologie et tout ça. La Chine est en train de créer ce genre de nouveaux départements pour suivre le monde et les arts de l'Occident et tout ça. Donc ça se passe au même temps en Chine. Donc, on peut dire qu'on a tous, donc c'est ouvert, donc en même temps, on garde la tradition. Oui, c'est ça.
Alors, on connaît la technicité des artistes chinois du fait de leur formation dans ces écoles d'art où ils ont appris énormément de choses pour avoir les outils de créer en art classique. Est-ce que ces outils-là peuvent aussi servir dans l'art contemporain ?
Oui. Il y a pas mal d'artistes qui sont suivent des éducations plutôt classiques, mais il y a quand même pas mal des grands artistes aussi. Ils ont changé à l'artiste contemporain. En fait, il y a une partie de l'artiste chinois plus connu comme Xu Bing. Et le seul genre, il vient de la département de gravure. Mais maintenant, il est l'artiste chinois contemporain le plus connu dans le monde. Il est souvent dans le Biennale Venezia et tout ça. Il est souvent participé avec des hyper grosses installations contemporaines et tout ça. Mais on n'explique pas, on ne sait pas du tout, il vient de le département de gravure. Donc, c'est un exemplaire, mais il y a plein d'artistes âgés, ils ont fait ce genre de changement de traverser la tradition et le contemporain.
Et donc, dans votre école à Chongqing, est-ce qu'avant d'intégrer cette école, il faut avoir fait une formation classique, on va dire ?
Non, pas tout à fait. On a la partie classique. Donc, on peut trouver des artistes qui ont très bonne technique pour faire la peinture ou la sculpture, mais en même temps, ils ont fait des essais aussi de l'art contemporain, l'art expérimental pour des matériaux mixtes, pour faire des essais plus expérimentaux. Donc ça existe aussi si les élèves ils ont envie d'apprendre le plus classique de la technique, donc c'est possible aussi. Il y a aussi des peintres et des sculpteurs ou du calligraphiste, c'est ça, ils ont gardé bien la tradition chinoise. Donc on peut trouver tous en Chine, oui.
Il y a quelques années, j'ai rencontré à côté de Lille un artiste qui exposait des œuvres. Il avait passé jusqu'à 70 ans. Il avait fait de l'art, de la peinture classique, traditionnelle. Et au bout de 70 ans, il a dit « faut vraiment que je change complètement, que je m'ouvre, parce que là, je sens les limites de ce que je peux faire. Je ne peux pas améliorer ce que je fais, donc il faut que je passe à autre chose. » Et il a passé 10 ans après à chercher ce qu'il pouvait faire. Donc il est venu en France, il a appris tout ce qu'il pouvait sur l'art contemporain, même l'art moderne, enfin, etc., pour essayer de se retrouver un second souffle. Vous voyez ça aussi en Chine ?
Oui, je vois beaucoup, parce que surtout comment à mon école ça fait, notre ancien directeur, il est peintre et il est le peintre le plus connu en Chine. Et il a une très bonne technique pour la peinture à l'huile classique, mais aussi en même temps, il fait une installation numérique, un nouveau média. En même temps, il a utilisé les éléments de dans son peinture pour transformer dans quelque chose de numérique. Donc, pour moi, et surtout les grands artistes connus, c'est pas difficile de changer leur pensée, de traverser les différents matériaux s'il a son point de vue plus ouvert. Parce que maintenant, les nouvelles technologies et les numériques, le réseau, l'Internet, nous a permis de très facilement à trouver des nouvelles choses et comment pour trouver des façons à faire des traversements. Donc moi je vois beaucoup de réussite pour les artistes classiques. Ils ont bien transformé leur travail, leur symbole, leur élément dans son tableau ou sculpture pour devenir quelque chose de plus contemporain ou du numérique. Parce que moi, parfois, je travaille avec ce genre d'artistes aussi. Même s'ils n'ont pas la technique pour réaliser les nouvelles technologies, mais ils ont la pensée et ils choisissent des collaborations et tout ça pour traverser ça. Dans mon point de vue, ce que je vois, les exemplaires, ils ont réussi à changer. Oui.
Alors, c'est vrai que le monde évolue et la Chine a beaucoup investi, elle va encore beaucoup investir dans l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient pour les artistes ?
Oui, je pense que plutôt des avantages et aussi c'est une force pour tous les artistes. Il faut changer la façon de création. Sinon, on ne peut pas le contrôler. Ça, c'est le problème. Si on a choisi de ne pas regarder, mais ça veut dire qu'il y a. Ça met la création d'images de plus en plus facile. Donc, si on ne accueille pas et on ne s'habitue pas, mais il y a de plus en plus de gens avant qui ne font pas de l'art, qui peuvent de plus en plus facilement créer des images numériques. Donc, ça, c'est des avantages aussi un risque. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde, même si on ne l'accueille pas, on n'aime pas, il faut le connaître. pour savoir comment on peut confronter ce changement du monde. Mais pour moi, parce que moi-même, je fais l'art numérique. Donc, à mon point de vue, je suis très content de voir qu'il y a de plus en plus d'outils avec intelligence artificielle qui nous permet de faire des arts numériques plus facilement. Donc, pour c'est mon domaine. Donc, je suis content aussi pour les artistes qui font l'art traditionnel. Aussi, ils peuvent bénéficier de ce genre d'intelligence artificielle pour comment mélanger avec les arts traditionnels comme en Chine. Il y a beaucoup d'artistes qui ont commencé à essayer de mélanger l'intelligence artificielle avec l'histoire traditionnelle de la Chine, les antiques de la Chine, pour inventer des nouvelles choses. Oui, c'est intéressant, c'est pas mal de voir ce genre de mélange. Donc, moi, je suis plutôt dynamique pour, pour l'avenir de l'intelligence artificielle, même s'il y a quand même pas mal de problèmes. Mais il faut le confronter, je pense. Oui.
Donc, Martial, par rapport à l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez intégré ces outils? Il y en a plusieurs, je pense, d'intelligence artificielle dans le domaine de l'art, à une façon de travailler.
On a un programme de recherche qui s'appelle PRIST, qui est un programme de recherche images, sciences, technologies. Et bien entendu, il y a déjà des étudiants qui se sont emparés des intelligences artificielles pour créer d'autres choses. On n'a pas un cours particulier encore, hein, comme si c'était un matériau en tant que tel, comme la sculpture, enfin comme le bois ou comme le métal. Mais de plus en plus, les étudiants vivant avec leur temps, ils sont contemporains, donc forcément, ils se posent la question de savoir comment utiliser ces nouveaux moyens. Pas forcément pour être dépassé, mais justement pour les maîtriser et pouvoir les questionner. Ça, c'est la première étape, je pense, qu'on va avoir. On n'est pas dans un monde... On ne crée pas de l'art numérique. L'art numérique n'existe pas. On est dans un monde numérique. Donc, effectivement, ils travaillent avec. Ils l'ont autour d'eux, donc ils s'en saisissent. Et puis, il y a des propositions qui sont faites depuis 2-3 ans maintenant au niveau des étudiants et au niveau des candidats au DNSEP, enfin, au master, je veux dire.
Voilà, donc, on n'a pas mentionné le nom du directeur de l'école de Zhongjing. C'est quelqu'un de très connu en Chine.
Il s'appelle Pang Maokun. Oui, c'est un peintre, un des peintres plus connus en Chine. Oui. Oui, un peintre qui fait peinture à l'huile classique. Oui, oui.
Le nouveau, c'est sculpteur.
Oui.
Ah, le nouveau s'appelle...
Oui, Zhang Xintao, c'est sculpteur. Ancien directeur s'appelle Pang Maokun. Voilà. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, Zhang Xintao est aussi le sculpteur plus connu, un des plus connus en Chine. Oui.
Donc, ici, on est sur une école où il y a l'ensemble du spectre de l'art qui est présenté. Il y a la vidéo,
l'art plastique et visuel. Oui. On n'a pas un conservatoire, donc la danse, le théâtre ne sont pas là. On fait un peu de performance, mais on est essentiellement spécialisé sur les arts plastiques et visuels.
Donc ici, on a une exposition d'artistes chinois qui sont professeurs aussi ici de temps en temps.
Il y a des professeurs de Tianjin. Mais il y a aussi un conservateur. Vous savez, il y a un grand musée hein, qui jouxte l'école là-bas, qui présente donc toutes les œuvres à la fois des étudiants, mais à la fois des artistes invités. Et donc le conservateur qui a participé à l'élaboration de l'exposition avec moi et avec le directeur de TAFA est présent. Voilà. Donc il y a un peu toute typologie des échanges qu'on peut avoir avec l'école.
Donc là, on a une œuvre qui est très intéressante hein, et qui est un petit peu, j'allais dire, quand on a le théâtre d'ombre chinois, on ressent un petit peu ces choses-là de marionnettes, etc. Sauf que là, bon, c'est une scène avec un personnage qui, je ne sais pas, il déplie du papier, etc. Il est dans un petit espace. Donc, c'est une projection sur un écran vertical et qui est très contrastée entre le noir de l'ensemble de personnages et décors et puis un fond coloré.
Tout à fait. C'est une œuvre de Liu Shuming. C'est le spectre de l'esprit, le nom de la pièce, exact.
Le spectre de l'esprit.
Et alors, si vous venez visiter l'expo, vous rencontrerez Enola, qui vous accueillera, et qui est notre service civique depuis quelques mois maintenant, et qui s'occupe à la fois de la régie, mais aussi de la médiation des œuvres auprès du public.
Bonjour Enola.
Bonjour.
Donc voilà, vous avez en charge, j'allais dire, la mise en valeur auprès du public de cette exposition et de ces artistes. Est-ce que vous connaissiez avant les artistes chinois ?
Exactement, je dois faire la médiation, mais pas du tout. Je connaissais à peine l'ESA. Je me suis intéressée au service civique et c'est comme ça que j'ai connu l'ESA. Et quand je suis arrivée ici, on m'a dit qu'il y avait plusieurs expositions à faire, dont l'exposition avec TAFA. Du coup, je suis arrivée comme ça.
Voilà, donc plusieurs œuvres très différentes, hein. Il y a une grande diversité.
C'est exact. Il y a plusieurs vidéos, il y a de la lithographie, de la photo, de la calligraphie surtout aussi, et plein d'arts plastiques différents.
Voilà, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ou intéressé personnellement dans ces œuvres qui sont présentées ?
Personnellement, c'est surtout les vidéos des performances. J'ai trouvé ça très nouveau, très intéressant à regarder. Mais aussi, il y a une lithographie qui est ici, qui est très impressionnante à voir et à un peu démembrée par la vue. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est impressionnant à voir. Mmh. Et il faut venir voir pour voir ça.
Donc vous avez fait la rencontre, la connaissance de Ke Xuan Fen, dont l'œuvre est ici. Donc c'est une artiste qui est souvent venue ici, hein, comme professeur aussi. La vidéo qui est là-bas.
Oui. Moi, je ne l'ai pas rencontrée personnellement, mais l'œuvre était très intéressante de pouvoir faire une performance avec ses cheveux, son corps. C'était quelque chose que j'avais rarement vu. Et de voir cette vidéo, cette calligraphie très précise, c'était très joli.
Voilà, donc vous encouragez le public à venir vous rencontrer pour visualiser un peu ce dont on parle, donc cet échange d'artistes et puis ces projets avec les étudiants de l'École supérieure d'art, donc qui est ici à Tourcoing. Hein. Je ne sais pas si à Dunkerque, il y a des passerelles, qu'il y aura la même chose là-bas.
Cette exposition n'est pas à Dunkerque, mais il y a plusieurs autres expositions visitables à Dunkerque aussi.
D'accord. Voilà. Oh, merci beaucoup. Bon, Martial, si tu veux nous présenter un artiste particulier ou une œuvre.
Non, je pense qu'il faut venir voir toutes les œuvres. D'ailleurs, je t'invite à changer de lieu, puisqu'il n'y a pas non seulement uniquement la galerie des Ursulines, là c'est la porte d'entrée sur la rue, mais on a aussi la galerie commune, qui est une galerie qui est commune avec l'université, et qui là présente encore une partie de l'exposition.
Oh,
si tu veux
voilà.
Nous suivre.
On va y aller alors. Voilà, donc on poursuit notre visite de l'exposition collective des professeurs de la Tianjin Academy of Fine Arts avec Prism. Voilà, donc ici sont donc des personnes, des artistes de Tianjin.
Aussi, oui, c'est la suite de l'exposition qui a lieu dans la Galerie des Ursulines. Donc là, on a une installation interactive, on a des photos, on a des vidéos à l'étage, on a un système d'impression de gravure sur un très très long Leporello qui se déploie sur environ 6 mètres, et des vidéos qui sont projetées un petit peu partout dans l'espace.
Donc peut-être on pourrait préciser, Martial, les supports que vous apportez à des étudiants pour soit aller en Chine, soit pour les intégrer plus facilement aux écoles en Chine ou en France d'ailleurs.
Alors, pendant très longtemps, on a travaillé des étudiants qui venaient de la Chine vers la France, et tout le travail que je mène en tant que responsable international, c'est de veiller à la bilatéralité. C'est-à-dire que, par exemple, à l'ESA, on a un cours de mandarin. Donc les étudiants français suivent un cours de mandarin de premier niveau, voire de deuxième niveau. Et on vise bien sûr un HSK 4 pour pouvoir intégrer les cours en Chine. Dans le sens inverse, les étudiants chinois se préparent à rentrer dans des écoles d'art. Et là aussi, on intervient, mais là-bas, sur place. On a une classe post-diplôme à l'ESA qui s'appelle le CE2A, donc qui est un certificat de formation pour des plasticiens intervenants. Donc ce sont des plasticiens qui vont être amenés à enseigner, à transférer leur savoir ou leur technique. Et dans le cadre de leur stage, on a un accord avec un lycée en Chine qui prépare donc des lycéens à entrer dans un cursus art ou culture en France. Et là, donc, elles vont donner un stage en janvier, on a une de nos étudiantes, Manon, qui va aller former des lycéens là-bas. Et elle suit ardemment le cours de mandarin.
Donc, on sent bien le potentiel de cette année qui était particulière entre la France et la Chine. Est-ce que ça va perdurer ?
Ah, complètement, oui. C'est même le début, je pense. C'est un nouveau début pour les 10 ans, voire les 100 ans à venir.
Radio Campus Lille 106.6 FM, campuslille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Une très belle année également à nos auditeurs de Radio Plus qui rediffusent cette émission. Et puis voilà, donc on va poursuivre la présentation de ces échanges avec une artiste dont on a parlé il y a quelques instants. Elle s'appelle Ke Xuan Feng. Elle vient d'être honorée comme l'une des 100 personnalités culturelles en France par la ministre de la Culture. Donc on va la retrouver, Femme de Culture 2024, là. Et puis on va retrouver un entretien que j'ai fait avec elle il y a quelques années, lorsqu'elle a réalisé une performance exposition à l'Université de Lille. Donc voilà, on va écouter un extrait de cet entretien qui s'était fait d'ailleurs ici en direct sur cette antenne sur Radio Campus Lille. Elle s'appelle Ke Xuan Feng, elle est artiste et a été formée dans les écoles d'art traditionnelles en Chine et contemporaine en France à l'école supérieure d'art de Tourcoing. Sa vie d'artiste et de résidente en France n'est pas un long fleuve tranquille. Pour autant, Ke Xuan Feng n'a jamais renoncé à vivre de son art et à le partager avec le plus grand nombre. C'est pourquoi on peut retrouver ses œuvres ou ses performances dans les salons d'art contemporain comme Arthur à Lille, mais aussi à l'occasion d'événements liés à la présentation de la culture traditionnelle chinoise ou lors de résidences artistiques dans des universités ou des territoires. Alors, quelle est la part de l'imaginaire et quelle est celle du réel dans son œuvre ? Réponse de Ke Xuan Feng.
Je crois qu'après les études, je commençais à présenter mes œuvres dans différents centres d'art, des différents lieux d'exposition. Et à l'époque, je crois que, je pense que vous savez, il y avait un problème de titre de séjour. Donc du coup, beaucoup de monde m'ont suivi et qui m'ont soutenu pour continuer mes activités en France. Donc commence par là que je commence à exercer mes activités artistiques à temps plein.
Est-ce qu'on peut dire que les problèmes à l'époque, hein, oui, de devoir peut-être repartir en Chine parce que l'État français ne veut pas vous garder par rapport à un statut d'étudiant que vous n'aviez plus, est-ce que ces difficultés-là vous ont permis quelque part une certaine créativité ?
Oui, je pense que au final, quand je regarde toutes les œuvres que j'ai faites, je crois que toujours j'utilise les problèmes dans la vie, dans la vraie vie. Donc l'art m'aide à surpasser ces problèmes. Et donc quelque part, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'œuvre. Donc j'utilise ces soucis, des petits problèmes quotidiens, les choses de la vie, pour composer mon œuvre.
Donc un artiste, c'est quelqu'un qui forcément doit avoir un minimum de vécu.
Oui, je pense que le vécu, le temps, c'est des éléments très importants. Je crois qu'au final, l'œuvre, il parle de soi-même. Donc c'est comme une personne, quand on était jeune, on était assez superficiel. Donc du coup, l'œuvre peut aussi avoir une partie superficielle. Et donc du coup, je pense que le temps, c'est important. C'est comme un bon vin, c'est comme un bon fromage, il faut du temps.
Et donc, à partir de ces moments où vous mettiez en scène votre vie, hein, faut dire les choses comme ça, vous avez évolué vers ce qu'on a vu présenter l'autre jour à l'Université Lille 3,
oui, hein,
c'est-à-dire une performance réalisée avec des étudiants, hein, mais dans le cadre d'un projet conçu à long terme. On peut peut-être définir le projet à long terme et l'œuvre que vous avez présenté, enfin une partie de cette œuvre en chantier, dans ce contexte d'évolution de votre art.
Je crois que moi j'appelle pour l'instant la performance, même si c'est pas une performance comme on entend dans les années 70, vraiment quelque chose de très happening. C'est pas vraiment dans cette notion-là, mais c'est plus une performance mise en scène et avec des chorégraphies. Cette performance a été importante pour moi parce que on y retrouve plusieurs de mes anciennes performances. C'est aussi ma vision de monde, ma vision de la beauté que je mets tous sur le même moment pendant une heure, pendant ces quatre actes. J'essaye de composer avec tout ce que j'ai envie de donner.
Donc effectivement, on peut parler de beauté, on peut parler aussi de quelque chose qui nous échappe un peu, c'est la culture chinoise telle qu'elle traverse le temps.
Oui, je pense que le temps, c'est quelque chose de très important, parce que vous voyez, en fait, il y a beaucoup d'œuvres d'art. Dans l'ancien temps, c'est des artisans qui travaillent très minutieusement pendant beaucoup de temps pour sortir quelque chose de précieux, qui est complètement au contraire des productions industrielles aujourd'hui, qui est très vite, il faut aller très très vite. Et donc du coup, il y a un grand contraste. Et j'apprécie l'art traditionnel chinoise. J'apprécie ce côté presque artisanal, quelque chose de manuel, parce qu'il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de sincère dans ces activités. Et je crois que dans cette pièce, j'essaie aussi mettre cette notion du temps. Et donc c'est pour ça aussi j'ai demandé les danseurs de faire un geste, et chaque geste ça doit pas faire comme ça. Et comment les choses deviennent précieuses, c'est notre attitude qui rend les choses précieuses. Et pareil comme le temps, comme si on a une loupe, on zoome dans le temps et on peut zoomer. Et donc c'est pour ça les danseurs, ils ont une lenteur dans cette pièce qui est vraiment au contraire de ce qu'on vit quotidiennement, parce qu'on doit aller vite.
Alors, justement, ce rapport au temps, mais aussi par rapport aux origines de l'homme, on sent quelque chose de profond qui dépasse l'aspect superficiel de ce qu'on peut vivre en ce moment dans les sociétés matérialistes, et même ces formes qui viennent de l'Occident, qui sont un peu importées en Chine, on ressent des fondements pas seulement traditionnels, mais on va dire des principes vitaux.
Oui, exactement. Je crois que certainement, comme je suis née en Chine et je suis certainement sous influence des cultures traditionnelles. En plus, mes parents sont fort intéressés sur I Ching, tous les cinq éléments, les rapports entre les éléments de la nature, etc. Donc, ce sont des notions qui m'intéressent énormément. J'en connais pas assez pour en parler, mais j'essaye de mettre ce que je peux comprendre dans ma création. Donc la notion des couleurs, la notion des matières, comme j'utilise beaucoup les matières, j'utilise le mot un peu volatile, comme le fumé, comme l'eau, comme le thé.
En fait, vous avez trouvé une forme,
oui,
autour de d'éléments que vous avez jugé important de mettre en valeur en ce moment,
oui,
dans notre temps actuel, qui est un moment où les gens se cherchent aussi.
Oui.
Est-ce que vous avez des solutions à leur proposer, enfin, du moins, sinon des solutions, du moins des lignes dans lesquelles ils pourraient retrouver une forme de liberté intellectuelle et spirituelle, pourquoi pas d'ailleurs.
Oui. Je crois que j'aime beaucoup l'art conceptuel, mais j'aime pas tout. Parce que pour moi, il faut avoir ce côté essentiel. Il ne faut pas quitter le humain.
Voilà, c'était Keshuan Feng. Donc, bravo, hein, Keshuan, pour cette mise à l'honneur donc, parmi les 100 personnalités culturelles de l'année. Et bien sûr, on te souhaite une très belle année 2025, de très beaux projets que tu pourras réaliser. J'espère que tu nous en parleras prochainement. Cette émission de Chine de janvier se termine. Bien sûr, on se retrouvera en février. On fêtera le premier samedi de février le Nouvel An chinois. Voilà, donc de Nouvel An pour passer un bon début d'année 2025. C'est quand même mieux qu'une seule nouvelle année. Profitons-en.
Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et puis de beaux rêves, de beaux voyages. C'est le moment d'aller en Chine puisque vous pouvez aller jusque 30 jours en Chine sans visa. Donc profitez-en. Moi, j'y serai en avril, début mai. Voilà, donc histoire de me reconnecter à la réalité chinoise et de vous en parler un peu dans cette émission de Chine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. À bientôt.
海潮声淹没了离别声。